Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 186e numéro de nos chemins d'histoire, le 27e de la 5e saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Mélanie Fabre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Mélanie Fabre, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Picardie Jules Verne, et vous venez de faire paraître chez l'éditeur marseillais Agon, dans la collection Mémoire sociale, Hussardes noires, des enseignantes à l'avant-garde des luttes, de l'affaire Dreyfus à la Grande Guerre. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous partons à la recherche de femmes qui, au tournant des 19e et 20e siècles, sous la Troisième République, n'entendent pas se contenter d'un rôle de subalterne et font entendre leur voix dans les salles de classe, les universités populaires, les revues, sur les estrades des réunions publiques. Ce sont ces figures souvent oubliées qui inventent la figure de l'intellectuelle. Alors, peut-être pour commencer notre conversation, Mélanie Fabre, on peut revenir sur l'objet du livre, sur votre démarche. Vous le dites notamment à la page 9, vous intéressez à des femmes qui s'engagent dans la sphère publique au mépris de l'idéal de discrétion ou de réserve qui prévaut dans la société de la Troisième République. Alors, évidemment, la question c'est comment qualifier ces femmes ? Et l'avant-titre dit les choses, vous réempruntez en le féminisant, la féminisant, une expression de Charles Péguy, vous parlez de hussardes noires.
Oui, tout à fait. Alors, peut-être qu'il faudrait commencer par définir ce que sont les hussards noirs. Donc, c'est une expression qui est utilisée par Péguy dans son livre L'Argent, qui est publié en 1913, où il décrit les normaliens, c'est-à-dire les jeunes gens qui sont alors élèves dans les écoles normales d'instituteurs, c'est-à-dire des jeunes gens qui se forment à devenir les enseignants. Et il les qualifie de hussards noirs parce que ces derniers portent un uniforme qui est tout en noir, qui lui rappelle l'uniforme des soldats, des hussards. Pourquoi est-ce qu'il utilise cette métaphore un petit peu belliciste ? C'est parce que il est lui-même élève à l'école qui est associée à ces écoles normales, donc l'école annexe, où les élèves servent de cobayes à ces jeunes instituteurs en devenir. Et il constate que ces normaliens sont des combattants de la République. Il les compare même à Barra, hein, le fameux jeune garçon qui a été tué pendant la Révolution française. Et donc, il voit en eux les combattants de la République qui sont à la fois portés par un idéal patriote, mais également par l'idéal de l'école laïque. Or, on a toujours utilisé ce terme au masculin, sous-entendant que le combat pour l'école laïque était le fait des hommes, et on a oublié la part des femmes dans ce combat-là, qui est une part importante, puisque les combats autour de la laïcisation de l'école sont sans doute beaucoup plus virulents dans l'enseignement des filles, qui est beaucoup plus associé à l'Église au XIXe siècle que dans celui des garçons, et donc les institutrices sont elles-mêmes au front, en fait, hein, à la fin du XIXe siècle. Moi, j'ai utilisé le terme quand même de manière un peu plus globale que la manière dont Péguy l'emploie, puisque lui, il l'emploie pour désigner simplement les normaliens, futurs instituteurs. Moi, j'ai inclus dans cette catégorie les institutrices, mais également les femmes professeurs dans les écoles normales, directrices de lycée, en fait, tout ce personnel enseignant qui naît à la fin du 19e siècle et qui porte les valeurs de l'école laïque.
Alors, c'est intéressant parce qu'à un moment, vous aviez pensé à un titre où il y avait le mot « intellectuel ». Intellectuel de ZLES que vous utilisez, qui est un mot intéressant parce qu'on sait que la figure de l'intellectuel au sens contemporain du terme naît en cette fin du 19e siècle, au moment de l'affaire Dreyfus. Là, vous dites, ben oui, mais il faut aussi féminiser ce terme, ça a du sens de le faire.
Oui, alors ça a donné lieu à beaucoup de réflexions de ma part, l'utilisation de ce terme intellectuel au féminin, parce que ce n'est pas un terme qui est utilisé dans le sens où je l'utilise à la Belle Époque. C'est-à-dire qu'on trouve le terme intellectuel au féminin au tournant du 19e et du 20e siècle, mais il est chargé quand même de connotations très dépréciatives. Je vous donne un exemple, Gabrielle Compéré, qui est le recteur de l'Académie de Lyon à l'époque, va dans un lycée de jeunes filles, donc ces institutions toutes récentes, et fait un discours au moment de la remise des prix en 1897 où il dit « Par ces lycées, mesdemoiselles, nous ne songeons à faire de vous ni des savantes, ni des pédantes, ni des intellectuels. » Et ici, le terme intellectuel vient dans la série des savantes et des pédantes. Donc les savantes, évidemment, bah, on connaît les femmes savantes de Molière. Les pédantes, c'est ce dont on a peur, c'est-à-dire que les femmes fassent un usage de leur savoir qui leur permette d'entrer en concurrence avec les hommes et de pouvoir s'enorgueillir finalement de cet accès au savoir. Donc ici, intellectuel au féminin est plutôt utilisé de manière dépréciative dans la lignée d'autres synonymes qu'on trouve au 19e siècle, les bas bleus par exemple, qui est un terme encore utilisé à la Belle Époque, qui avait fait l'objet d'une série de caricatures par Honoré d'Aubigné dans les années 1840, qui est encore vraiment prégnant dans la tête du personnel et notamment des hauts administrateurs de l'instruction publique. Donc ici, le terme intellectuel, moi j'ai décidé de l'utiliser comme catégorie d'analyse dans une certaine mesure, et j'ai utilisé ce terme tel qu'il existe pendant l'affaire Dreyfus pour désigner les hommes, c'est-à-dire que à travers le terme d'intellectuel, on a trois choses qui me semblent intéressantes pour caractériser ces femmes. Un, le fait qu'elles appartiennent à la culture savante, parce qu'elles ont pu faire des études, ce qui est relativement rare à cette époque. Deux, le fait qu'elles ont un engagement, c'est-à-dire qu'elles portent une parole dans l'espace public. Et puis, trois, elles acquièrent une certaine forme de visibilité. Alors évidemment, c'est ni Jaurès ni Zola, hein, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, mais ce sont des femmes qui, quand même, se font un nom à la Belle Époque, dans les milieux féministes, dans les milieux de l'instruction publique, voire de manière plus générale, comme dans le cas de Pauline Kergomar, qui est sans doute l'intellectuelle la plus connue dont je parle dans ce livre.
C'est ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce terme, cette expression d'intellectuel, est très relié à l'école. On a un lien presque ontologique avec l'école, l'instruction publique.
Oui, alors il y a quelques éléments dans l'historiographie des livres qui ont travaillé sur l'intellectuel, autant des Lumières, autant des Salons, qui ne mettent pas véritablement cette catégorie en perspective avec l'école. Mais moi, c'était un des enjeux de mon travail, de me poser la question du lien entre les lois scolaires des années 1880 et l'émergence de cette figure d'intellectuel. Et effectivement, on peut pas nier que même si ces lois n'ont pas un objectif d'émancipation féministe, elles ont malgré tout cet effet-là, qui était peut-être pas un effet recherché. Il y a par exemple deux lois dont j'étudie les effets dans ce livre. La première, c'est la loi Paulbert de 1879, qui est une loi qui oblige chaque département français à entretenir une école normale de filles et une école normale de garçons, des institutions publiques et laïques, pour former le personnel enseignants. Jusqu'alors, il y avait quand même beaucoup d'écoles normales de garçons qui existaient déjà sur le territoire, mais peu d'écoles normales de filles. Dans le sillage de la loi Paulbert, il y a 64 écoles normales de filles qui sont fondées contre 4 écoles normales de garçons. Donc vous voyez ici la différence de maillage du territoire. Et ces écoles normales non seulement permettent de former des institutrices qui jusqu'alors étaient souvent formées dans les cours normaux congréganistes, donc par des congrégations religieuses, mais cette loi permet aussi la naissance d'une élite de l'enseignement primaire féminin par le biais de la création de l'école normale supérieure d'institutrices de Fontenay-aux-Roses. C'est-à-dire qu'on crée des écoles normales partout sur le territoire, mais il faut bien fournir un personnel à ces écoles normales, et ce personnel-là est formé à partir de 1880, à Fontenay, sous le regard du directeur Félix Pecot. Et c'est vraiment une fabrique, me semble-t-il, d'intellectuels, enfin de femmes en tout cas, qui vont très loin dans la culture savante, qui sont les premières femmes au 19e siècle à être reconnues sous le grade de professeur. Alors moi, je féminise le terme en mettant un E dans le livre. Évidemment, à cette époque-là, ça n'est pas féminisé, mais il n'empêche qu'elles sont professeurs, qu'elles ont un salaire qui n'est pas équivalent à celui des hommes, mais qui est quand même très élevé pour une femme de cette époque-là. Et puis, il y a une autre loi qui a elle aussi ses effets sur la naissance d'une corporation enseignante très cultivée, c'est la loi Camille C. de 1880, qui est une loi qui crée les lycées publics de jeunes filles. Alors, les lycées de garçons, ils datent de Napoléon, hein, ils ont presque un siècle à cette époque-là, mais les filles de la bourgeoisie ne vont pas dans des lycées puisqu'ils n'existent pas, elles vont, pour la plupart d'entre elles, au couvent. Et alors là, le but des républicains est moins de créer des institutions pour émanciper les femmes que de créer des institutions qui rivalisent avec les couvents, qui aillent chercher les jeunes filles de la bourgeoisie et qui les sortent des griffes de l'église, pour reprendre les images de cette époque-là, pour les amener dans des lieux qui soient des lieux laïcs. Et donc ces lycées commencent à se créer à partir de 1881. Et puis, comme pour les écoles normales de filles, il faut aussi former le personnel de ces lycées. Alors on a hésité à faire appel aux hommes, mais il y avait déjà eu un épisode au moment du Ruy, à la fin du Second Empire, où on avait voulu créer des cours secondaires pour les jeunes filles qui soient tenues par des hommes. Alors là, ça avait fait scandale de mettre des jeunes filles adolescentes pubères face à des hommes. Donc là, il faut créer un personnel féminin. Et pour créer ce personnel féminin, on crée l'École normale supérieure de Sèvres, qui crée la formation pour passer l'agrégation. Donc les premières femmes agrégées arrivent à cette époque-là, à la fin du 19e siècle. Donc à la fois dans l'ordre primaire avec les écoles normales et l'École normale supérieure de Fontenay, et dans l'ordre secondaire avec les lycées et avec l'ENS de Sèvres, on a la production d'une élite féminine qui acquiert des diplômes et un certain niveau de prestige avec un salaire équivalent.
Alors, regardons maintenant un peu votre démarche historienne, hein, comment vous avez fonctionné avec les sources. On peut aussi se reporter à votre thèse, dont ce livre est l'un des fruits. Votre thèse soutenue sous la direction de Vincent Duclerc et de Rebecca Rogers en novembre 2021 et qui s'appelle « La craie, la plume et la tribune, trajectoire d'intellectuels engagés pour l'école laïque France, année 1880-1914 ». Vous le dites de manière plus explicite dans la thèse tapuscrite. Vous êtes appuyé sur un ensemble de sources desquelles ont émergé certaines figures. Ça, c'est tout un travail un peu inductif, hein, que vous avez pu davantage dessiner en consultant des dossiers de carrière. Il y a tout un travail préparatoire, j'imagine, long, complexe, un petit peu ingrat, mais nécessaire.
Oui, et quand j'ai commencé cette thèse, la seule personnalité que je connaissais de toutes les femmes que je cite dans ce livre, c'est Pauline Kergomar. Toutes les autres, je les ai découvertes en travaillant sur les sources. Donc effectivement, je me suis dit que si on voulait travailler sur des intellectuels, des femmes qui prennent la parole, fallait évidemment partir des revues, qui sont le lieu où elles s'expriment. Donc effectivement, j'ai dépouillé beaucoup de revues, et à chaque fois, je notais les noms féminins ou les articles en lien avec les sujets autour de l'éducation des filles. Et puis de revue en revue, j'ai vu certains noms revenir de manière très régulière, et donc j'ai fait des décomptes, et au bout d'un certain temps, j'ai vu apparaître des femmes qui écrivaient beaucoup d'articles dans beaucoup de revues différentes, qu'elles soient des revues pédagogiques, des revues corporatistes, des revues féministes, des revues même de type amicaliste, syndicaliste. Et je suis partie de ces noms-là, et j'ai constaté que la plupart d'entre elles démontraient dans leurs articles qu'elles étaient fonctionnaires de l'instruction publique, donc elles-mêmes enseignantes. Et là, c'est bingo pour le chercheur, puisque pour chaque fonctionnaire de l'instruction publique, il y a un dossier de carrière, en particulier ici pour des femmes qui ont des titres quand même assez élevés dans l'instruction publique. Et donc, je suis allée à Pierrefitte-sur-Seine, où sont donc les archives nationales, et j'ai retrouvé les dossiers de carrière. Dossiers de carrière où on trouve des informations...
F17.
Oui, voilà, c'est la série F17, exactement. On trouve évidemment des informations, date de naissance, date de mort, statut matrimonial, nombre d'enfants, etc. On trouve aussi la correspondance avec l'administration. Et dans le cas d'intellectuels, c'est très intéressant parce que comme elles s'expriment dans l'espace public, qu'elles remettent en question certaines directives qui viennent de leur hiérarchie, elles produisent beaucoup de papiers. Donc on voit beaucoup de rappels à l'ordre, etc. Et donc j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes, y compris des comptes rendus d'inspection dans ces dossiers de carrière. Puis il y a les archives plus privées. Donc j'ai cherché notamment dans différents fonds les correspondances qu'elles ont pu entretenir avec de nombreux hommes politiques ou hauts administrateurs de cette instruction publique de la fin du 19e siècle. Par exemple, si on va dans le fonds Ferdinand Buisson, alors directeur de l'enseignement primaire, bras droit de Jules Ferry, on trouve des lettres de Dick May, de Marie Baerchi. Et comme à l'époque, on n'a pas les mails et les SMS
SMS, etc., on a des lettres qui sont très longues, parfois des lettres d'une dizaine, douzaine de pages, voire parfois des archives privées type journaux intimes. C'est le cas de Mathilde Salomon, puisque ses descendantes ont eu l'amabilité de me confier ce journal où elle note de temps en temps quelques idées qui sont évidemment très utiles pour voir l'envers de textes qui sont publiés dans la presse.
À l'issue de ce travail, bon, il y a un certain nombre de figures qui a émergé. Alors, quatre en particulier dont l'engagement est remarquable. Hein. Pauline Kergomar, on en parlait, inspectrice générale des écoles maternelles. Jeanne Desparmer-Ruello, directrice du lycée de jeunes filles de Lyon. Albertine Heidenschenk, directrice d'école normale. Marie Baerchi, dont vous parliez, professeure d'école normale. Et puis, il y a d'autres personnalités. Vous citiez à l'instant Mathilde Salomon, directrice du collège Sévigné, une institution privée laïque fondée en 1880. Ou encore Jeanne Crouzet-Benaben, pédagogue aussi, qui a un rôle très important. Donc il y a quelques figures secondaires comme ça, et c'est à partir de ces figures que vous avez travaillé.
Oui, l'un des enjeux de mon travail, c'était quand même de mettre un visage sur certaines personnalités. Donc si je faisais un travail où je traitais à égalité une quinzaine de femmes, j'avais peur qu'on se perde dans des noms inconnus et qu'on ait du mal à identifier une telle ou une telle. Donc le parti pris vers lequel j'ai opté, c'est de mettre en avant particulièrement quatre femmes, raison pour laquelle le livre est construit avec un prologue et un épilogue biographique. C'est-à-dire que j'ai traité dans ce livre de la période qui va de l'affaire Dreyfus à la Grande Guerre, que j'ai étudiée en détail. Mais en même temps, je voulais quand même rapporter des trajectoires de vie qui ne commencent pas avec l'affaire Dreyfus et qui ne finissent pas avec la Grande Guerre. D'où l'intérêt d'isoler quatre personnalités particulièrement phares et de retracer leur expérience de vie de leur naissance à leur mort, en faisant un zoom évidemment sur la période qui m'intéresse, mais en rapportant quand même le milieu familial dans lequel elles ont grandi, la religion éventuellement dont elles héritent, le parcours de formation qu'elles ont pu avoir avant leur entrée en fonction comme enseignante, parce qu'évidemment c'est déterminant tous ces éléments-là dans les prises de position qu'elles ont pu avoir au moment qui m'intéresse, au tournant du 19e et du 20e.
Le rapport à la religion, vous le disiez à l'instant, de ces femmes et singulièrement de ces quatre-là est très intéressant aussi, parce que la question de la religion, la question de la laïcité, le mot laïque était dans le titre de votre thèse, il n'est plus dans le titre du livre, mais voilà, les questions religieuses, la laïcité, ça traverse évidemment l'ouvrage.
Tout à fait, il y a un ouvrage qui est celui d'Émile Poula qui parle de la guerre des deux France quand il parle de ces enjeux autour de la laïcité. Les journaux de cette époque-là sont pleins de débats et de controverses à ce sujet, et le positionnement de ces femmes est forcément lié à leur propre expérience personnelle en lien avec la religion. Alors deux d'entre elles, Marie Baerchi et Albertine Heidenschenk, sont passées par Fontenay sous le regard de Félix Pécaud, qui était lui-même un ancien pasteur protestant en rupture de banc, qui était trop libéral. Il y a Ferdinand Buisson aussi, qui est très important dans cette histoire-là, qui est lui aussi protestant. Donc il y a un rapport particulier des protestants avec la laïcité. Et puis il y a aussi Pauline Kergomar, qui vient d'une famille de protestants. Son père était lui-même inspecteur et était rejeté des écoles qu'il allait visiter en raison de sa religion, quand il faisait face notamment à des enseignants catholiques. Et puis il y a des personnes qui deviennent beaucoup plus franchement agnostiques, voire athées. C'est le cas de Jeanne Desparmer-Ruello, qui, elle, est une militante presque anti-religieuse, hein, favorable au développement de l'irreligion, et donc dans une lutte qui est vraiment beaucoup moins libérale, notamment au moment du combisme. Et donc, évidemment, leur position là et leur cheminement intellectuel sur ces questions spirituelles a un effet sur leur manière de concevoir la laïcité à cette époque.
Pour terminer cette première partie de notre émission, une question plus d'ordre historiographique. On voit très bien toutes les innovations de votre travail. Vous exhumez des figures oubliées, enfin ça c'est tout à fait passionnant. Et en même temps, vous rencontrez une historiographie qui s'est considérablement transformée ces dernières décennies. Enfin, l'histoire des femmes et du genre, l'histoire de la République, l'histoire de la Troisième République, l'histoire sociale, l'histoire politique. Enfin voilà, il y a à la fois ces deux pôles, à la fois des choses très inédites et en même temps la rencontre avec une historiographie en plein bouleversement, vous étiez un peu à la croisée de ces chemins-là, Mélanie Fabre.
Oui, j'ai essayé de travailler au croisement de trois historiographies. La première, c'est l'histoire de l'éducation, puisque évidemment le contexte éducatif est essentiel pour comprendre les combats de ces femmes. Historiographie qui a été quand même très renouvelée ces dernières années au sujet notamment de l'histoire des femmes et du genre, qui est le deuxième champ historiographique dans lequel je m'inscris. Et puis le troisième, c'est celui de l'histoire des intellectuels, de l'histoire politique. Et il est vrai que ces trois champs ne collaborent pas si souvent que cela. Donc mon but, c'était vraiment de les faire dialoguer en essayant de remettre en question certaines fractures qui existent dans l'historiographie. Par exemple, en histoire de l'éducation, on a souvent tendance à traiter d'un côté les écoles publiques, de l'autre l'enseignement privé, ou alors de traiter d'un côté l'ordre primaire, de l'autre l'ordre secondaire. Moi, en faisant émerger ces figures-là, finalement, je suis un petit peu au-dessus de ces divisions-là, où on a à la fois, parmi ces intellectuels, des femmes qui évoluent dans l'enseignement privé, d'autres dans l'enseignement public, les unes dans l'ordre primaire, les autres dans l'enseignement secondaire. Donc ça permet aussi de décloisonner certaines séparations qu'on voit dans l'historiographie.
Précisons juste un élément, on a souvent employé cette expression, mais redisons-le, ordre primaire, ordre secondaire sont des expressions qui sont un peu confusionnantes pour nous, expliquez-nous bien les choses
oui.
Peut-être.
En effet, les termes ordre primaire et ordre secondaire n'ont pas le même sens qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du primaire puis du secondaire, c'est deux étapes successives d'une scolarité, ce qui n'était absolument pas le cas à l'époque et jusqu'au milieu du XXe siècle. L'ordre primaire, c'est, il faut imaginer ça comme un couloir qui devient gratuit pour les enfants donc des classes populaires ou des classes moyennes. On peut y entrer dès l'école maternelle à 3 ans, puis on a la période de la scolarité obligatoire depuis la loi Ferry, qui va donc de 6 ans à 13 ans. Et puis, on peut, pour les personnes, les enfants qu'ils souhaitent, les familles qu'ils souhaitent, poursuivre au-delà de la scolarité obligatoire dans des écoles primaires supérieures qui apportent des savoirs un peu plus techniques, en comptabilité, en agriculture, etc., dans lesquelles on peut rester quelques années. Et puis, pour les meilleurs élèves des écoles primaires supérieures, ils peuvent aller jusqu'à l'école normale, qui est donc l'école où se forment les instituteurs et les institutrices. Ce qui fait qu'on peut rentrer dans cet ordre primaire à 3 ans et en sortir à une vingtaine d'années avec le brevet supérieur pour devenir instituteur et institutrice. Et l'école normale supérieure de Fontenay pour les filles ou celle de Saint-Cloud pour les garçons qui forment le personnel de ces écoles normales est toujours dans l'ordre primaire. Ordre primaire dans lequel il n'y a pas de latin, il n'y a pas de grec et il n'y a pas de philosophie parce que les classes moyennes et les classes populaires n'en ont pas besoin. Donc ça, c'est ce couloir de l'ordre primaire. Puis à côté, il y a un autre couloir qui est celui de l'ordre secondaire où on peut entrer aussi à l'âge de 3-4 ans, dans ce qu'on appelle les classes enfantines ou les petites classes des lycées. Et puis ensuite, on a l'enseignement élémentaire avec la 9e, la 8e, la 7e. Et puis ensuite, on rentre en 6e, 5e, 4e, 3e. Là, on connaît un petit peu ce décompte-là aujourd'hui. Tout ça, c'est le lycée, depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 17-18 ans où on passe le baccalauréat. Seul examen qui permet d'entrer dans l'enseignement supérieur, d'aller notamment dans les facultés. C'est-à-dire que quand on vient de l'ordre primaire, on ne peut pas passer le baccalauréat, à la fois parce que les études ne conduisent pas au baccalauréat, puis aussi parce qu'on n'a pas de latin, de grec et de philo, et donc on est bien embêté pour passer ce bac. Donc d'un côté, un enseignement pour les classes populaires et moyennes gratuits, et puis de l'autre, un enseignement pour les classes aisées, qui est payant. Et pour le coup, hein, les lois Ferry n'ont rien changé à cette ségrégation sociale du système scolaire. Il y a quelques éléments quand même qui réussissent à passer de l'ordre primaire à l'ordre secondaire. C'est les Marcel Pagnol, c'est les Jean Jaurès, c'est les boursiers, ceux qui réussissent le concours des bourses et qui peuvent avoir une prise en charge par l'État de leur scolarité dans le secondaire en raison de leur caractère brillant intellectuellement.
On voit quand même que ces questions-là que vous brassez pour la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle ont beaucoup d'écho aujourd'hui encore. Quel effet ça a eu sur votre recherche, sur la production de ce livre? Il y a eu une espèce de dialogue avec notre contemporanéité ou au contraire, il fallait un peu s'en protéger?
Alors, j'avoue que quand je me suis lancée dans ce travail de thèse, j'avais peut-être pas la réflexivité que j'aurais aujourd'hui, mais je pense que la question de réfléchir à l'école laïque autour des années 2000 était sans doute pas complètement anodine et venait sans doute de quelque part. Effectivement, il y a des échos avec notre présent dans ce livre, d'autant que j'ai rédigé ma thèse beaucoup pendant l'année 2020, enfin au cours de laquelle ça m'est Samuel Paty a été assassiné, ce qui a créé beaucoup de débats autour de ce qu'on a le droit d'enseigner en classe, ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas. Et j'avoue que les échos ont été vraiment frappants par rapport à ce que j'étudiais dans ma thèse, d'autant qu'à cette époque-là, j'étais enseignante dans un collège un peu défavorisé, et donc j'ai été moi-même amenée à questionner ces enjeux autour du contenu d'enseignement face à des élèves, de la question du blasphème, etc. Et il est vrai que mes intellectuels, enfin je dis mes intellectuels, évidemment, j'utilise le possessif pour aller plus vite, sont confrontés à des sujets assez brûlants, elles aussi, notamment pendant l'affaire Dreyfus, et se pose la question des liens entre l'actualité contemporaine de leur pays et ce qu'elles enseignent en classe. Et elles refusent de rendre l'école imperméable aux échos du dehors, et elles considèrent que si l'objectif de l'école est de former des citoyens dotés du libre examen et d'un esprit critique, il faut évidemment que cet esprit critique apprenne à s'exercer, et il faut que ces élèves-là, quel que soit leur âge, mais de manière différente selon l'âge bien sûr, doivent être au courant des enjeux politiques, notamment dans cet épisode de la crise de l'affaire Dreyfus. Et finalement, les discours qu'elles tiennent et les textes qu'elles écrivent sont des injonctions à refuser l'autocensure ou la censure, quelle qu'elle soit. Et c'est aussi chez elles l'idée que tous les sujets peuvent être objet de discussion à l'école et qu'il n'en faut exclure aucun du questionnement scientifique et pédagogique. Pour le coup, je suis assez d'accord avec cette prise de position, et je pense qu'elle est toujours aussi vraie aujourd'hui, et que une école qui voudrait se renfermer sur elle-même et ne pas faire la lumière sur tous les enjeux de l'actualité qui questionne nos élèves serait une école qui faillirait sans doute à sa mission.
Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Mélanie Fabre, maîtresse de conférence à l'université Picardie-Jules Verne. Mélanie Fabre qui fait paraître chez Agon, Hussarde noire, des enseignantes à l'avant-garde des luttes, de l'affaire Dreyfus à la Grande Guerre. Alors, dans la deuxième partie de notre émission, on peut revenir sur quelques points saillants, importants de votre ouvrage, en commençant par le rôle majeur de l'affaire Dreyfus, qui sonne, vous le dites, pour plusieurs intellectuels, l'heure de l'entrée dans la dissidence, dans une institution frileuse. Et vous prenez l'exemple de Marie Baerci en congé d'inactivité, pour des raisons que vous expliquez, entre 1897 et 1904, qui enseigne au collège Sévigné à partir de 1900, le collège fondé en 1880, et qui co-signe notamment avec 10 jeunes gens une lettre ouverte à Monsieur Zola le 17 janvier 1898. On est juste après le J'accuse et après l'emprisonnement du lieutenant-colonel Picard, hein, qui avait dénoncé Esterhazy. Alors je vous propose de lire, c'est à la page 65 de votre livre, un extrait de cette tribune, hein, très éloquente. Ce qui est clair et indiscutable, c'est que la personne humaine est inviolable et sacrée, qu'aucun intérêt, pas même l'intérêt de l'État, n'est supérieur au droit de l'individu. Et nous ne sachons pas que ce droit soit limité par aucune question de parti ou de secte. Juifs, catholiques ou protestants pèsent à cet égard d'un même poids dans la balance de la justice. Nous nous rions des menaces et nous acceptons de grand cœur la persécution. Quand l'injustice règne, il est glorieux d'être sa victime. Mélanie Fabre, il y a une espèce d'enthousiasme, de lyrisme, et on imagine un peu Marie Baerci, qui était par ailleurs une excellente oratrice, dans ce mouvement-là.
Oui, Marie Baerci est quelqu'un d'extrêmement charismatique, un peu trop d'ailleurs aux yeux de l'administration de l'instruction publique, parce qu'elle a énormément d'influence sur ses élèves, qui sont donc des normaliennes qui se forment à devenir institutrices. Et Marie Baerci est effectivement en congé d'inactivité entre 1897 et 1904, parce qu'elle a entre autres des démêlés avec ses supérieurs hiérarchiques qui considèrent qu'elle a une liberté de ton un petit peu trop grande. L'éclatement de l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle la voit aux avant-gardes, notamment dans cette lettre ouverte que vous avez citée du 17 janvier 1898, qui est donc publiée 4 jours après le J'accuse de Zola dans l'Aurore. Quand on regarde la source en tant que telle, on a une petite liste d'une petite dizaine de noms qui signe cette tribune, et puis il y a un M. Baerci, professeur d'école normale. Et donc je pense que la plupart des gens ont lu Monsieur Baerci, professeur, en plus ce n'était pas féminisé, d'école normale, alors qu'il s'agit de la seule femme qui est co-signataire de cette tribune. Il faut dire que dans les pétitions des intellectuels, qui ont été étudiées entre autres par Christophe Charles ou par Marie Aignée, à cette époque-là, il y a très peu de noms féminins. En plus, quand elle co-signe cette tribune, elle co-signe professeur d'école normale. Donc, elle légitime son propos par le statut qu'elle a dans l'instruction publique. Ça veut dire aussi qu'elle expose l'institution. Tout ça, on va dire, ne lui cause pas trop de problèmes, simplement parce qu'elle est en congé d'inactivité. On la retrouve dans des universités populaires à la même époque, où elle prononce énormément de conférences. Dans une de ces universités populaires, lors d'une des soirées, l'internationale est reprise en chœur par les ouvriers présents, ce qui est très problématique pour une femme fonctionnaire à cette époque-là, qui est vraiment sous la surveillance assez tatillonne de l'administration.
Alors, un autre exemple est intéressant aussi. Marie Baerci a enseigné au Collège Sévigné donc à partir de 1900, donc deux ans plus tard. Elle a été embauchée par Mathilde Salomon, qui est à la direction du collège, qui est alors situé 10 rue de Condé, dans le 6e. Mathilde Salomon, une figure intéressante parce que elle est dans une famille juive, elle est à l'épreuve d'une certaine manière de l'antisémitisme, et ça c'est visible, ça c'est passionnant, vous le rappelez dans son journal personnel dès 1897. Elle intègre le comité directeur de la Ligue des droits de l'homme, créé en 1898, et elle est attaquée très fortement par le Gaulois, journal anti-Dreyfusard, et elle répond dans la Fronde. La Fronde, c'est ce journal créé en 1897, et qui, comment dirais-je, est rédigé entièrement par des femmes. Et vous citez à la page 112 de votre livre un entretien que Mathilde Salomon donne à la Fronde dans l'édition du 11 juin 1898. Alors on peut lire cet extrait. C'est un entretien avec Marianne Villain. Mathilde Salomon est une petite femme en cheveux blancs, au regard vif, intelligent, à la voix vibrante qui, tout indignée, nous explique qu'elle ne comprend rien aux attaques dirigées contre elle. Son institution ne relève de personne, ni de la ville, ni de l'État. « Je suis directrice du Collège Sévigné, me dit-elle, à mes risques et périls. Je suis ici, chez moi, et ne dois compte de ma conduite à quiconque. Et quand j'eusse été une fonctionnaire, émargeant, comme ils disent, au budget de l'État, où serait le mal ? Pourquoi s'être attaqué à moi quand parmi les 1000 adhérents de la Ligue, il y a des professeurs des lycées de jeunes gens ? C'est donc comme femme que je n'ai pas le droit d'avoir mon opinion. Ah, quand les hommes s'y mettent, ils ne sont pas intolérants à demi. » Là aussi, on voit la vivacité d'une femme. Et dans ce contexte où fleurit l'antisémitisme à l'époque de l'affaire Dreyfus, Mélanie Fabre.
Oui, alors peut-être qu'il faudrait faire un petit point sur le cas particulier du Collège Sévigné dans ce paysage scolaire. Le Collège Sévigné est un établissement libre, ou une école privée, pour reprendre les termes qu'on utilise plutôt aujourd'hui, qui a été fondée en 1880, c'est-à-dire quelques semaines avant la loi de Camisset qui crée des lycées publics de jeunes filles. Et c'est un établissement qui va servir de modèle pour ces lycées publics, qui a l'avantage de ne pas être soumis à la réglementation de ces lycées de jeunes filles, et qui a une beaucoup plus grande liberté d'action pour faire étudier du latin, du grec, de la philosophie, ce qui n'existe pas dans les lycées de jeunes filles. Et à la tête de cet établissement, à partir de 1883 et jusqu'à sa mort en 1909, il y a Mathilde Salomon, qui est une femme venue d'une famille juive. Je crois qu'elle a une dizaine de frères et sœurs, donc famille assez populaire, qui a pu faire des études pour la drôle de raison qu'elle était handicapée. Elle avait des problèmes de dos, elle avait du mal à se déplacer. Et donc, elle ne pouvait pas aider sa mère dans l'entretien de la maison, faire des travaux manuels ou ménagers. Donc elle est allée à l'école et elle s'est avérée être une brillante élève et elle a fini par reprendre ce collège Sévigné, qui est une exception dans l'enseignement privé de cette époque-là, qui est très très majoritairement catholique. Mais ici, c'est un établissement libre et laïque, et j'allais dire presque de réfusard, puisque Mathilde Salomon, qui fait elle-même l'expérience de l'antisémitisme dès les années 1880, qui comprend progressivement, elle a des parents qui viennent la voir pour mettre leur fille dans son collège, et puis qui trouvent tout très bien quand ils visitent les lieux, quand on leur présente les programmes, mais qui ne mettent pas leur fille dans cet établissement. Et donc, comme ça lui arrive plusieurs fois, elle finit par se demander la raison pour laquelle ces gens qui ont l'air tout à fait enthousiastes face à cet établissement n'y inscrivent pas leur fille, et elle en conclut que c'est probablement lié au fait qu'elle est elle-même juive. Donc, elle fait l'expérience de cet antisémitisme qui devient débordant au moment de l'affaire Dreyfus, et elle s'engage dans le camp dreyfusard, notamment en acceptant de figurer, donc, parmi le comité directeur de la Ligue des droits de l'homme. Et donc, ça devient une figure dreyfusarde, si bien que des personnalités comme Marie Bertschy, dont je parlais, qui a une trop grande liberté de ton dans l'instruction publique et réprimandée par sa hiérarchie, trouve refuge dans l'enseignement privé. Et notamment, dans ce collège Sévigné, elle est proche de Mathilde Salomon. Et elle y enseigne en laissant un grand souvenir aux élèves, puisqu'on a notamment des souvenirs d'une ancienne élève qui est Thérèse Morette Dupuis, qui est la fille de Paul Dupuis, qui était lui-même un grand dreyfusard qui travaillait à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Donc les dreyfusards mettent leur fille au collège Sévigné. C'est le cas de Jaurès aussi, hein. La fille de Jaurès, Madeleine, sera scolarisée dans ce collège Sévigné. Donc finalement, les années post-affaire Dreyfus sont plutôt pour le collège Sévigné un moment où les bancs de ces classes sont pleins, ce qui n'était pas le cas avant, parce que eh bien, la bourgeoisie ou la petite bourgeoisie républicaine fait confiance à cette figure dreyfusarde et y met ses enfants.
Alors, dans les thématiques que vous abordez, il y a notamment la question de l'éducation populaire. C'est un autre point, un autre chapitre de votre ouvrage. La question de l'éducation populaire est passionnante, notamment celle des universités populaires, où là, les femmes s'expriment à la tribune, et c'est là qu'on retrouve Marie Bertschy, hein, la muse des universités populaires parisiennes ou franciliennes, on dirait aujourd'hui, une conférencière à succès. On retrouve aussi, dans un genre un peu différent, là on est à Lyon, Jeanne Desparmets-Ruelleau, fondatrice et présidente de l'Université populaire de Lyon. Alors c'est intéressant parce qu'on voit à la fois des formes d'adhésion, mais aussi des remises en cause, parfois par la bande, si j'ose dire. Hein, Jeanne Desparmets-Ruelleau est finalement mise à la retraite d'office de manière anticipée à un moment, parce que peut-être qu'elle est devenue, gênante, enfin, etc. Il y a à la fois des formes d'adhésion, on salue les performances même rhétorique de certaines de ces femmes, mais bon, il faut pas non plus qu'elles prennent trop de place, on a l'impression.
Oui, alors dans le cas de Jeanne Desparmets-Ruelleau, il faut bien rappeler qu'elle est directrice de lycée. Donc son objectif, c'est de faire en sorte que les familles bourgeoises de Lyon acceptent de mettre leur fille dans cet établissement. Si en même temps elle fonde et préside l'université populaire lyonnaise, qui fait des conférences à destination d'un public ouvrier, elle risque de s'aliéner une partie de sa clientèle, parce que aller voir cette femme faire des cours pour les ouvriers en se revendiquant du socialisme, en collaborant avec Édouard Herriot, qui va devenir le maire radical socialiste de Lyon, et en faisant des conférences qui ont une certaine tonalité féministe, c'est évidemment problématique pour l'administration, qui voudrait voir dans la directrice de lycée une notabilité républicaine et certainement pas une militante socialiste et féministe. Jeanne Desparmets-Ruelleau est accusée de délaisser son lycée au profit de ses conférences qu'elle fait à Lyon, mais qu'elle va aussi faire à Rive-de-Gier, à Valence, enfin dans plusieurs lieux pas très loin de Lyon, et donc elle est mise à la retraite d'office en 1908. Il faut rajouter qu'en plus son mari a la mauvaise idée d'écrire des articles dans les quotidiens lyonnais où il critique le recteur de l'académie qui est Gabriel Compéré, donc ça fait beaucoup pour ce couple là. Mais en même temps qu'elle est mise à la retraite en 1908 de manière anticipée comme une sanction, elle reçoit le grade de chevalier de la Légion d'honneur parce qu'elle bénéficie du soutien de l'univers politique lyonnais, d'Édouard Herriot, de Francis de Pressensé. Donc c'est intéressant parce que à la fois elle est désavouée par l'administration de l'instruction publique et en même temps soutenue dans le monde politique. Quant à Marie Berchi, oui, elle est surnommée la muse des universités populaires. Donc là, il y a évidemment un petit biais genré, hein. C'est celle qui inspire les hommes. Tandis que les hommes sont, quant à eux, les tacticiens, pour reprendre la citation, enfin, le texte dans lequel elle est qualifiée de muse. Elles ont toutes les deux un grand succès, particulièrement Marie Berchi, parce que c'est quelqu'un qui a enseigné une grande partie de sa vie dans le primaire, c'est-à-dire qu'elle a formé les futures institutrices, donc des jeunes filles qui viennent de milieux plutôt modestes, qui n'ont pas une grande culture, et donc elle a une très grande capacité à se mettre à la hauteur de ses auditeurs. Et on voit à côté de ça, à la même époque, dans les universités populaires, des universitaires très talentueux qui sont vraiment mauvais dans leur conférences, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre au niveau de leur public, ce qui n'est absolument pas le cas de Marie Berchi.
Et ça rejoint d'une certaine manière un autre de vos chapitres où vous interrogez sur l'expertise féminine au service de l'école et singulièrement d'une école de l'émancipation. J'imagine que ça passe aussi par la qualité des cours et la qualité de la prononciation de ces cours, hein. Alors nous pouvons nous attarder sur un exemple que vous développez sur la question des lycées féminins. Et l'idée d'en faire des fabriques de bachelières, hein, avec peut-être une certaine forme de clivage qu'on a déjà rencontré, le débat entre les intellectuels et le suivant. Faut-il faire une espèce d'équivalence entre le baccalauréat et le diplôme de fin d'études qui couronne pour les jeunes filles leur parcours en lycée? Ou faut-il instaurer une forme de baccalauréat pour toutes et pour tous? Et ça, ce débat, Mélanie Fabre, sépare vos héroïnes, si j'ose dire.
Effectivement, alors le diplôme de fin d'études secondaires se passe donc pour les jeunes filles après 5 années d'études, alors que les lycées masculins sont un peu plus longs et amènent jusqu'au baccalauréat. Le diplôme de fin d'études secondaires ne permet pas aux jeunes filles d'entrer dans les différentes facultés et donc d'exercer des professions libérales dans la médecine, dans le droit, etc. Donc une des questions, c'est comment faire en sorte que ces jeunes filles puissent entrer sur le marché du travail et faire valoir l'instruction qu'elles ont reçue dans ces lycées. Alors effectivement, il y a plusieurs points de vue. Il y a au départ, par exemple, Pauline Kergomar, Jeanne d'Espard-Meruello, qui voudraient que le diplôme de fin d'études soit considéré comme un équivalent du baccalauréat et puisse permettre à ces jeunes filles d'entrer à la faculté. Pourquoi ? Parce qu'on estime que la création donc de ces lycées nés des années 1880 est beaucoup plus moderne et beaucoup plus pertinente que ce qui se fait dans les lycées de garçons. C'est le grand moment de la critique, en plus du baccalauréat, qui est accusé de créer des phénomènes de bachotage chez les élèves. Et d'ailleurs, il est en cours de réforme. Il y a une réforme du baccalauréat qui se fait en 1902. Ça, c'est une partie donc des intellectuels qui disent « gardons notre modèle, ne cherchons pas à tout prix à copier un idéal masculin, gardons nos voies qui sont très bonnes et faisons en sorte d'avoir des équivalences ». Il y a une autre partie des intellectuels, dont Mathilde Salomon, qui est à la tête du Collège Sévigné, qui disent « non, il faut permettre aux jeunes filles de passer le même baccalauréat que les garçons, parce qu'elles en sont tout aussi capables de passer ces épreuves que les hommes. » Alors, il faut dire que Mathilde Salomon, elle a un intérêt un peu pragmatique dans cette histoire, puisqu'elle est à la tête d'un enseignement libre qui n'a pas le droit de délivrer le diplôme de fin d'études. Le diplôme de fin d'études secondaires est propre au lycée public. Et donc, elle crée, dès 1905, une filière avec du latin notamment, qui permet aux jeunes filles de passer le même baccalauréat que les garçons. Et ça, c'est une des libertés de l'enseignement privé dans lequel s'engouffre Mathilde Salomon, mais dans lequel vont aussi s'engouffrer les catholiques qui vont créer plusieurs établissements, notamment à Paris, préparant au baccalauréat, ce qui remet complètement en cause le premier argument des premières féministes qui voulaient des équivalences et qui finissent par dire « bah oui, mais regardez, le privé prépare au bac, le privé remplit ses classes, il faut que l'établissement, que les établissements publics évoluent et que eux aussi fassent en sorte de pouvoir préparer ces jeunes filles au baccalauréat pour leur donner la possibilité d'entrer ensuite dans la vie active par le biais de la scolarisation dans les facultés.
Et où en est-on à la veille de la Grande Guerre, finalement, sur cette question ?
Sur cette question, les choses ont beaucoup changé, puisque en 1902, il y a eu une réforme du baccalauréat qui a créé plusieurs filières et qui a allégé le poids des langues anciennes pour réussir le baccalauréat, ce qui fait que les jeunes filles de la Belle Époque, en prenant des cours particuliers, peuvent plus facilement arriver au même niveau que les garçons pour passer le baccalauréat. Le Conseil supérieur de l'instruction publique, qui est un organe consultatif du ministère, a accepté que dans les grandes villes, il puisse y avoir de manière optionnelle des cours de latin pour les jeunes filles dans les lycées, mais il faut attendre 1924 et le décret Bérard pour que les lycées de jeunes filles préparent officiellement au baccalauréat et que les jeunes filles s'y présentent librement.
Et là, de ce point de vue-là, le Collège Sévigné a été pionnier en 1905.
Tout à fait, le Collège Sévigné a été pionnier et a beaucoup fait bouger les débats, notamment parmi les partisanes de l'instruction publique qui ne voulaient pas être dépassées par l'enseignement privé et qui se rendaient bien compte que leur clientèle, si dans les années 1880 venait comme elles auraient pu aller dans les couvents pour avoir une sorte de culture et pour pouvoir ensuite être bien mariées et bien paraître en société, avait complètement changé. À la belle époque, et ça sera encore plus vrai dans le sillage de la Première Guerre mondiale, les filles qui vont dans les lycées veulent pouvoir avoir ensuite une vie active, gagner leur vie et ne sont pas là uniquement pour avoir un vernissage de culture et pour bien paraître en société.
Vous évoquiez à l'instant les débats. Les débats, ils n'ont pas forcément lieu, ou pas vraiment en tout cas, au Conseil supérieur de l'instruction publique. Vous comptez 7 femmes au Conseil supérieur de l'instruction publique entre 1886 et 1914. Mathilde Salomon l'a été à partir de 1892, mais je crois qu'elle s'exprime peut-être 4 fois. Et de manière relativement feutrée, la parole des femmes au sein de cette institution est relativement modeste.
Oui, alors cette institution est composée de personnes qui sont soit nommées par le ministère, c'est le cas de Mathilde Salomon, pour représenter l'enseignement privé, ce qui est assez drôle parce que elle n'est pas du tout représentative de l'enseignement privé, étant l'arbre laïque qui cache la forêt catholique, mais ça arrangeait bien le ministère que ce soit elle qui soit nommée, ou alors ce sont des personnes qui sont élues. Et les femmes, les enseignantes, vont s'engouffrer dans cette brèche-là pour faire élire des représentantes au féminin, des enseignantes dans cet organe. C'est le cas de Pauline Kergomar, qui est la première à y entrer comme élue de l'ordre primaire en 1886. Et puis après, il va y avoir des phénomènes de discipline électorale, c'est-à-dire que pour chaque élection au Conseil supérieur de l'instruction publique, les femmes essaient de faire en sorte qu'elles aient au moins une candidate. Et s'il y a 2 candidates en lice qui se retrouvent au deuxième tour, la moins bien placée appelle à voter pour la mieux placée pour assurer la présence d'une femme au Conseil supérieur de l'instruction publique. Alors il est vrai qu'il y a des questions de personnalité, hein. Mathilde Salomon est une personne assez discrète, donc elle prend relativement peu la parole. Il y en a d'autres qui sont un peu plus expansives, c'est le cas de Pauline Kergomar, c'est le cas d'Albertine Heidenschenk, qui porte beaucoup de propositions de réformes, et notamment c'est elle qui porte au Conseil supérieur de l'instruction publique la parole des enseignantes, qui est assez unanime dans un combat très consensuel à la belle époque, qui est celui de l'égalité des salaires entre instituteurs et institutrices, entre professeurs femmes et professeurs hommes, ce combat pour l'égalité des salaires qui ne sera finalement obtenu qu'en 1919 à issue de la Première Guerre mondiale.
On arrive à la fin de cet entretien. Mélanie Fabre, alors la question traditionnelle dans le bouchemin, voilà, ce livre est publié, vous continuez à travailler sur ces questions, quels sont vos propres chemins d'historienne en ce moment ?
Pour l'instant, je suis en train de prolonger un petit peu ce travail, puisque dans ma thèse, j'avais travaillé sur Madeleine Vernet, qui est la fondatrice d'un orphelinat qui s'appelle l'Avenir Social, qu'elle fonde en 1906. C'est un orphelinat libre, privé, laïque, libre penseur, libertaire. Alors là, on est plutôt dans le champ de l'extrême gauche à cette époque-là. Madeleine Vernet ne voulait pas que les enfants soient accueillis soit dans des orphelinats catholiques, puisqu'elle était elle-même libre penseuse et féministe, soit par l'assistance publique, puisque les enfants étaient ensuite placés dans des familles qui, parfois, ne les traitaient pas toujours très bien. Et donc, elle veut créer une institution d'avant-garde en créant donc un orphelinat pour la classe ouvrière qui aura une longue vie puisqu'il est fermé seulement en 1988. Donc, pour l'instant, je travaille sur cet orphelinat libertaire qui recueille les enfants de la classe ouvrière et puis qui devient communiste au moment du grand basculement du congrès de Tours.
Passionnant, l'histoire continue. Merci beaucoup Mélanie Fabre.
Merci à vous.
Et c'est ainsi que se termine le 186e numéro de nos chemins d'histoire, le 27e de la 5e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Mélanie Fabre, maîtresse de conférence à l'université Picardie-Jules Verne, autrice chez Agone, d'un ouvrage passionnant, vous l'aurez compris, un livre intitulé « Hussardes noires, des enseignantes à l'avant-garde des luttes », de l'affaire Dreyfus à la Grande Guerre. Toutes nos émissions sont disponibles sur les plateformes de podcast et sur le site chemindhistoire.fr avec un S, un chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.